Jules Verne, La maison à vapeur. Chapitre 14. Le 50e tigre du capitaine Hodd. Le colonel Munro, ses amis, ses compagnons, n'avaient plus rien à craindre, ni du nabab, ni des hindous qui s'étaient attachés à sa fortune, ni de ses dacouettes, dont il avait formé une redoutable bande dans cette partie du Bundelkund. Au bruit de l'explosion, les soldats du poste de Jubulport étaient sortis en nombre imposant. Ce qui restait des compagnons de Nana Sahib, se trouvant sans chef, avait aussitôt pris la fuite. Le colonel Munro se fit reconnaître. Une demi-heure après, tous arrivaient à la station, où ils trouvèrent abondamment ce qui leur manquait, et particulièrement les vivres, dont ils avaient le plus pressant besoin. Lady Munro fut logée dans un confortable hôtel en attendant le moment de la conduire à Bombay. Là, Sir Edward Munro espérait rendre la vie de l'âme à celle qui ne vivait plus que de la vie du corps et qui serait toujours morte pour lui tant qu'elle n'aurait pas recouvré la raison. À vrai dire, aucun de ses amis ne se résignait à désespérer de la prochaine guérison de Lady Munro. Tous attendaient avec confiance un événement qui seul pouvait profondément modifier l'existence du colonel. Il fut convenu que dès le lendemain, on partirait pour Bombay. Le premier train ramènerait tous les hôtes de Steamhouse vers la capitale de l'Inde occidentale. Cette fois, ce serait la vulgaire locomotive qui les emporterait à toute vitesse, et non plus l'infatigable géant d'acier, dont il ne restait maintenant que des débris informes. Mais ni le capitaine Hodd, son fanatique admirateur, ni Banks, son créateur ingénieux, ni aucun des membres de l'expédition ne devait jamais oublier ce fidèle animal, auquel ils avaient fini par accorder une vie réelle. Longtemps, le bruit de l'explosion qui l'avait anéanti retentirait dans leurs souvenirs. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'avant de quitter Jubulport, Banks, le capitaine Hodd, Mauclair, Fox, Goumi, eussent voulu retourner sur le théâtre de la catastrophe. Il n'y avait évidemment plus rien à craindre de la bande des Dacouettes. Toutefois, par surcroît de précaution, lorsque l'ingénieur et ses compagnons arrivèrent au poste des Vindhias, un détachement de soldats se joignit à eux, et vers 11 heures ils atteignaient l'entrée du défilé. Tout d'abord ils trouvèrent, épars sur le sol, 5 ou 6 cadavres mutilés. C'étaient ceux des assaillants qui s'étaient jetés sur le géant d'acier, afin de dégager Nana Sahib. Mais c'était tout. Du reste de la bande, il n'y avait plus trace. Au lieu de retourner à leur repère de Riport, maintenant connu, les derniers fidèles de Nana Sahib avaient dû se disperser dans la vallée de la Nerbuda. Quant au géant d'acier, il était entièrement détruit par l'explosion de la chaudière. L'une de ses larges pattes avait été rejetée à une grande distance. Une partie de sa trompe, lancée contre le talus, s'y était enfoncée et ressortait comme un bras gigantesque. Partout des tôles gondolées, des écrous, des boulons, des grilles, des débris de cylindres, des articulations de bielle. Au moment de l'explosion, lorsque les soupapes chargées ne pouvaient plus lui offrir d'issue, la tension de la vapeur avait dû être effroyable et dépasser peut-être 20 atmosphères. Et maintenant, de l'éléphant artificiel dont les hôtes de Steamhouse se montraient si fiers, de ce colosse qui provoquait la superstitieuse admiration des hindous, du chef-d'œuvre mécanique de l'ingénieur Banks, de ce rêve réalisé du fantaisiste Raja de Bhoutan, il ne restait plus rien qu'une carcasse méconnaissable et sans valeur. Pauvre bête, ne put s'empêcher de s'écrier le capitaine Hodd devant le cadavre de son cher géant d'acier. On pourra en fabriquer un autre qui sera plus puissant encore, dit Banks. « Sans doute, » répondit le capitaine, en laissant échapper un gros soupir. « Mais ce ne sera plus lui. » Pendant qu'il se livrait à ses investigations, l'ingénieur et ses compagnons eurent la pensée de rechercher s'ils ne trouveraient pas quelques restes de Nana Sahib. À défaut de la figure du nabab facile à reconnaître, celle de ses mains à laquelle il manquait un doigt leur eût suffi pour constater l'identité. Ils auraient bien voulu avoir cette preuve incontestable de la mort de celui qu'on ne pouvait plus confondre avec Balaorao, son frère. Mais aucun des débris sanglants qui jonchaient le sol ne semblait avoir appartenu à celui qui fut Nana Sahib. Ces fanatiques avaient-ils emporté jusqu'au dernier vestige de ses reliques? Cela était plus que probable. Il devait néanmoins en résulter ceci. C'est que, puisqu'il n'y avait aucune preuve certaine de la mort de Nana Sahib, la légende allait reprendre ses droits. C'est que dans l'esprit des populations de l'Inde centrale, l'insaisissable Nabab passerait toujours pour vivant, en attendant que l'on fît un dieu immortel de l'ancien chef des Sipahi. Mais pour Banks et les siens, il n'était pas admissible que Nana Sahib eût pu survivre à l'explosion. Ils revinrent à la station, non sans que le capitaine Odd eût ramassé un morceau d'une des défenses du géant d'acier, précieux débris dont il voulait faire un souvenir. Le lendemain, 4 octobre, tous quittaient Jubulport dans un wagon mis à la disposition du colonel Munro et de son personnel. 24 heures plus tard, ils franchissaient les Ghâts occidentales, ces Andes hindous, qui se développent sur une longueur de 360 lieues, au milieu d'épaisses forêts de banyans, de sycomores, de teks entremêlés de palmiers, de cocotiers, d'arecs, de poivriers, de sandales, de bambous. Quelques heures après, le railway les déposait à l'île de Bombay, qui, avec les îles Salcet, Elephanta et autres, forme une magnifique rade et porte à son extrémité sud-est la capitale de la présidence. Le colonel Munro ne devait pas rester dans cette grande ville, où se coudoient des Arabes, des Persans, des Banyans, des Abyssiniens, des Parsis ou Guèbres, des Sindes, des Européens de toutes nationalités, et même, paraît-il, des hindous. Les médecins consultés sur l'état de Lady Munro recommandèrent de la conduire dans une villa des environs, où le calme, joint à leurs soins de tous les jours, au dévouement incessant de son mari, ne pouvait manquer de produire un salutaire effet. Un mois se passa. Pas un des compagnons du colonel, pas un de ses serviteurs n'avait songé à le quitter. Le jour qui n'était pas éloigné, où l'on pourrait entrevoir la guérison de la jeune femme, ils voulaient tous être là. Ils eurent enfin cette joie. Peu à peu, Lady Munro revint à la raison. Ce charmant esprit se reprit à penser. De ce qu'avait été la flamme errante, il ne resta plus rien, pas même le souvenir. « Laurence, Laurence !» s'était écrié le colonel. Et Lady Munro, le reconnaissant enfin, était tombé dans ses bras. Une semaine plus tard, les hôtes de Steamhouse étaient réunis dans le bungalow de Calcutta. Là allait recommencer une existence bien différente de celle qui avait empli jusqu'alors la riche habitation. Banks y devait passer les loisirs que ses travaux lui laisseraient. Le capitaine Odd, les congés dont il pourrait disposer. Quant à McNeil et Goumi, ils étaient de la maison et ne devaient jamais se séparer du colonel Munro. À cette époque, Mauclerc fut obligé de quitter Calcutta pour revenir en Europe. Il le fit en même temps que le capitaine Odd, dont le congé était expiré, et que le dévoué Fox allait suivre au cantonnement militaire de Madras. « Adieu, capitaine, » lui dit le colonel Munro. « Je suis heureux de penser que vous n'avez rien à regretter de votre voyage à travers l'Inde septentrionale, si ce n'est peut-être de n'avoir pas tué votre 50e tigre. » « Mais il est tué, mon colonel. »«
Comment ? Il est tué ?»«
Sans doute, » répondit le capitaine Odd avec un geste superbe. « 49 tigres et... Kalagani. Cela ne fait-il pas mes 50 ?» Fin de la deuxième et dernière partie.